en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Une intervention vous est maintenant proposée sur Canal Académie, celle de Laurent Stefanini, conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères. Elle a pour thème les relations diplomatiques avec le Saint-Siège.
Comme le soulignait ici même M. Raymond Paulin, alors président de l'Académie des sciences morales et politiques, en accueillant le 6 novembre 1992 le cardinal Ratzinger, aujourd'hui sa sainteté Benoît XVI, en tant que membre associé étranger, l'antique problème des rapports du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel a pris à l'époque contemporaine un tour profondément nouveau. Le pouvoir temporel a cessé d'être un pouvoir essentiellement régalien pour étendre son emprise sur la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle. Tout en ne cessant pas d'être une affaire de roi, d'homme d'État, il s'est enveloppé d'experts, de technocrates, d'autant plus encombrants qu'ils sont plus utiles. Où, à quel niveau, par quelle voie, le spirituel va-t-il réussir à pénétrer ce temporel obscur et omnivalent ? Fin de citation. La diplomatie n'est pas épargnée. Le traitement des affaires religieuses françaises par ceux qui ont en charge les relations avec le Saint-Siège a profondément changé d'esprit ces dernières années. Dans un premier temps, je voudrais d'abord préciser le contenu des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Et si je peux dire, je le fais sous le contrôle de Mgr Baldelli, qui est en quelque sorte l'alter ego chargé ici à Paris, tout autant que nous à Rome, de ces relations. On prétend souvent à Rome que, à la Villa Bonaparte, siège de notre ambassade, que celle-ci est la plus ancienne ambassade de France permanente à l'étranger. On a même une date, 1465, à l'exception évidemment des années 1792-1801 et 1904-1921. C'est dire, de toute façon, même s'il y a une part un peu légendaire dans cette revendication, c'est dire si ces relations sont anciennes et hors normes. Elles ont aussi été au cœur de nos grands affrontements nationaux, qu'il s'agisse de l'adoption de la Constitution civile du clergé en 1791 ou de la rupture de juillet 1904. Ces relations, que recouvrent-elles aujourd'hui ? Je distinguerai quatre domaines par ordre d'importance. Le domaine proprement diplomatique, qui touche les riches échanges de vues sur toutes les situations de tension, toutes les crises régionales, tous les sujets d'intérêt commun à travers le monde. La France et le Saint-Siège ont l'un comme l'autre une vision, des projets et des intérêts dans le monde entier. Il y a au fond peu de puissance dans cette situation. Or, non seulement nous avons en commun une vision mondiale des problèmes, mais nous partageons le même souci pacifique, le même respect en toutes circonstances de la dignité humaine. Il m'arrive parfois de qualifier la politique étrangère française d'évangélique, dans tous les sens du terme, tant il est vrai que ses objectifs et ses moyens, tout politique et laïque qu'il soit, rencontrent souvent les préoccupations d'une puissance spirituelle comme le Saint-Siège. Pour la France, donc, l'intérêt des échanges réside dans l'information politique. Quelles sont les conséquences de tels coups d'État dans un pays d'Amérique latine ou d'Afrique noire ? Comment articuler l'aide française et l'aide du Saint-Siège via Caritas International après une catastrophe naturelle en Asie du Sud-Est ? Quelle est l'analyse de l'un ou de l'autre après un changement de position de tel ou tel acteur du conflit israélo-palestinien ? De ce point de vue, d'ailleurs, la France dialogue avec le Saint-Siège comme elle dialogue avec de nombreux autres partenaires, étatiques ou non, de la société internationale. Les affaires proprement religieuses en sont normalement exclues, mais les prises de position aventureuses d'un grand cardinal localement, ou au contraire l'action bénéfique d'une communauté religieuse ou de laïque, peuvent conduire notre pays à vite se retrouver dans un champ que je qualifierais de politico-religieux. Le second domaine de coopération avec le Saint-Siège est culturel. Notre ambassade auprès du Vatican dispose du Centre culturel Saint-Louis de France, fondé par Jacques Maritain en 1945, pour diffuser la pensée et la culture chrétienne d'origine française, mais aussi pour faire connaître la pensée et la culture de la France laïque auprès du clergé et des religieux de tous les pays. C'était une citation de Jacques Maritain. Je continuerai d'ailleurs à citer Jacques Maritain, cette fois-ci dans ses lettres de créance au pape Pie XII. Je cite « Auprès du souverain pontife, c'est la France dans sa totalité, avec les diversités internes qu'elle tient de son passé et qui sont réunies dans sa communion nationale. » Fin de citation. C'est particulièrement vrai pour le centre culturel Saint-Louis, qui doit être le reflet de cette diversité. Et si vous regardez ces récentes activités de ces dernières semaines, vous vous rendez compte qu'à côté de sujets proprement religieux, comme un récent colloque sur les anges, ou des journées d'études consacrées à des théologiens ou à des historiens des idées, comme le professeur Bruno Neveu, qui fut membre de votre académie et que nous allons célébrer lundi 2 mai prochain, bien des activités théâtrales ou cinématographiques sont tout à fait éloignées de préoccupations religieuses et sont exclusivement séculières. Un autre domaine important et souvent méconnu des relations avec le Saint-Siège est la gestion pour partie commune d'un patrimoine français important à Rome et à Lorette, venu du fond des âges. Certains de ces biens sont affectés par accord entre la France et le Saint-Siège, l'ensemble conventuel de la Trinité des Monts, religieuse du Sacré-Cœur depuis 1828, l'église de Saint-Claude des Bourguignons au Père du Saint-Sacrement depuis 1886. Pour ce qui concerne l'animation et la gestion de ces domaines, voire leur réaffectation quand la question se pose, comme ce sera le cas prochainement à la Trinité des Monts, l'ambassade de France près le Saint-Siège est évidemment amenée à traiter d'affaires proprement religieuses, et je dirais même proprement ecclésiales. Enfin, il est un quatrième domaine qui est alors celui où se concentrent les affaires religieuses des relations entre la France et le Saint-Siège. C'est celui qui porte sur les rapports entre l'Église et l'État qui aujourd'hui ne peuvent pas être dissociés de la question plus générale des relations entre les confessions et l'État. Et dans une seconde partie, je voudrais m'étendre sur ce sujet. Dans ce paysage, au fond, je qualifierais de paysage vallonné, de bocage, que sont les relations entre la France et le Saint-Siège, quels sont ces champs spécifiques des affaires religieuses? D'un point de vue français, je distinguerai trois domaines, trois objectifs. Expliquer sans relâche la laïcité, défendre en toutes circonstances la liberté religieuse, présenter les mesures spécifiques françaises, et je prendrai l'exemple de la loi du 15 mars 2004. Expliquer sans relâche la laïcité. Vivant souvent à l'étranger, je suis frappé à quel point la laïcité à la française, entre guillemets, est mal comprise. Il est vrai que dans beaucoup de pays européens, l'équivalent local du terme laïcité signifie souvent esprit ou politique anti-religieuse, voire anticléricale. Si la conception de la laïcité de la France et du Saint-Siège sont presque identiques, il nous faut pourtant sans cesse remettre, aussi bien à Paris qu'à Rome, sur le métier un travail patient d'explication de ce que la laïcité française n'est pas ou n'est plus. Mais je suis optimiste. Quand M. le Président de la République déclarait le 17 décembre 2003 que la laïcité, je cite, « protège la liberté de croire ou de ne pas croire, qu'elle assure à chacun la possibilité d'exprimer et de pratiquer sa foi paisiblement, librement, sans la menace de se voir imposer d'autres convictions ou d'autres croyances », le pape Jean-Paul II lui a répondu quelques jours plus tard, le 12 janvier 2004, que la laïcité était, je cite, « le respect de toutes les croyances de la part de l'État qui assure le libre exercice des activités spirituelles, culturelles et caritatives des communautés de croyants ». On voit à quel point les deux conceptions sont très proches. Et la lettre du pape Jean-Paul II aux évêques de France du 11 février 2005 a développé ce concept partagé qui est né, si l'on peut dire, dans les années 50 avec les termes de « légitime et saine laïcité » qu'a utilisé le pape Pie XII le 23 mars 1958. Donc, il nous faut d'abord et avant tout expliquer la laïcité. Il nous faut ensuite défendre en toutes circonstances la liberté religieuse. Cet impératif, d'ailleurs, découle du principe de laïcité. Pour défendre la liberté religieuse, et même au-delà la liberté de croire ou de ne pas croire, la France et le Saint-Siège travaillent régulièrement en commun, s'informent sur le sort des minorités religieuses maltraitées de par le monde, qu'elles soient chrétiennes ou non, échangent des vues pour préparer les conférences internationales consacrées à ces sujets dans le cadre des Nations Unies, de l'OSCE ou du Conseil de l'Europe. Dialogue islamo-chrétien, lutte contre l'antisémitisme, protection des chrétiens d'Orient sont d'importants sujets qui font l'objet d'échanges de vues réguliers et fournis avec le Saint-Siège. Que l'on me comprenne bien, il n'y a là aucune exclusivité, ni d'un côté ni de l'autre, et la France n'évoque pas ses affaires religieuses qu'avec le Saint-Siège, loin de là. Mais la nature de ces sujets, la compétence reconnue de certaines institutions de Curie, je pense par exemple au PISAI, à l'Institut Pontifical d'Études Arabes et Islamiques, rendent fructueux le dialogue pour nous, autorités françaises. Enfin, troisième sujet, il faut présenter les mesures spécifiques françaises. Et de fait, une part importante du temps consacré aux affaires religieuses par ceux qui ont en charge les relations avec le Saint-Siège est consacrée à l'explication de dispositions françaises qui pourraient sinon être mal interprétées. La création du Conseil français du culte musulman a beaucoup intéressé à la Curie ces derniers mois. Plus encore, la loi du 15 mars 2004 sur le port de signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse a dû faire l'objet de nombreuses présentations à Rome comme à Paris, et a dû être commenté, expliqué pour la faire comprendre. Alors, arrivé à ce moment de ma communication, déjà très avancée, je sens poindre une certaine déception. Et les nominations d'évêques, ou plus généralement, et les questions de personnes. Je voudrais, dans une troisième partie, en traiter rapidement. Si je n'en ai pas traité, c'est parce qu'elle compte bien peu aujourd'hui dans le travail du conseiller pour les affaires religieuses comme de l'ambassade de France près le Saint-Siège. Et pourtant, la légende de l'entente préalable a la vie dure. Récemment encore, un archevêque nouvellement promu à qui j'annonçais ma nomination comme conseiller pour les affaires religieuses me disait « Ah, vous allez vous occuper des nominations d'évêques ». J'ai dû le détromper. Pour faire court, et vu d'un point de vue de l'ambassade de France près le Saint-Siège, que l'on traite des évêchés concordataires de Strasbourg et de Metz ou des autres évêchés de métropole et des départements d'outre-mer, la procédure se réduit aujourd'hui à une information préalable et à un nihil obstat. Le nonce apostolique, à Paris, informe le Quai d'Orsay, direction de la coopération européenne sous direction d'Europe méridionale, compétente pour le Saint-Siège, une vieille survivance de la question romaine, de l'intention du siège apostolique de nommer tel prêtre à tel évêché. L'ambassade auprès du Vatican est saisie et rassemble quelques éléments sur le diocèse et sur la personne. Transmis à Paris, aux affaires étrangères, à l'intérieur, au cabinet du Premier ministre et du Président de la République, ces éléments permettent une vérification que je dirais simple vérification de moralité et d'honnêteté du futur évêque, qui est alors effectué et qui conduit ensuite le ministère des Affaires étrangères à informer le nonce apostolique de l'absence d'objection des autorités françaises. Pour finir, la veille ou le matin même de la publication de sa nomination, l'ambassade de France près le Saint-Siège est par courtoisie informée de celle-ci un peu avant qu'elle soit rendue publique par la secrétaire d'État. Voilà à quoi se limite aujourd'hui l'intervention des autorités publiques françaises dans les nominations d'évêques. Quelques heures de travail à effectuer, quelques procédures à suivre, si je peux dire, dans l'intérêt des deux parties, une fois par mois, ou à peu près, compte tenu du nombre d'évêchés et de la durée des fonctions épiscopales. Si les autorités françaises, en charge des relations avec le Saint-Siège, n'exercent plus le contrôle sur les nominations en France, elles sont en revanche soucieuses d'une présence étoffée de la pensée et de la langue française au sein de la Curie, centre d'influence mondiale. Ainsi, les autorités françaises plaident-elles pour que nous ayons un nombre suffisant de cardinaux au sein du Sacré Collège. Sans le dernier consistoire d'octobre 2003, où 3 cardinaux français en âge de voter au conclave ont été créés, nous n'aurions eu, la semaine dernière, que 2 électeurs français. Alors je ne dis pas que le travail d'explication mené par l'ambassade de France près le Saint-Siège est à l'origine du choix du pape Jean-Paul II il y a un an, mais enfin, il a probablement contribué à faire comprendre aux autorités de Curie que le nombre de cardinaux français était tombé. De même, nous nous efforçons d'obtenir qu'une présence française suffisante soit assurée à la secrétaire d'État et dans tous les dicastères, ainsi qu'à l'Académie pontificale ecclésiastique qui forme les futurs nonces, et dans toutes les universités pontificales, ceci comme nous le ferions au secrétariat des Nations Unies ou de l'OSCE. J'ai cherché par ce vaste et rapide panorama des affaires religieuses dans les relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège à vous montrer que celles-ci sont toujours et avant tout pour nous des affaires politiques. Influence française, défense de ses intérêts à travers le monde, mise en valeur de sa langue, de sa culture et de sa pensée, illustration des concepts originaux qui président à l'organisation de sa société, guide là comme ailleurs l'action de nos diplomates à Paris comme à Rome. Comment pourrait-il en être autrement ? Les pouvoirs publics français ne sont plus gallicans. Et après avoir cité Raymond Paulin dans mon introduction, je voudrais conclure par cette belle affirmation rappelée par le président Jean Foyer le 6 novembre 1992 à celui qui est aujourd'hui sa sainteté Benoît XVI. Il n'est point de système de rapport, je cite, « Il n'est point de système de rapport entre Église et État qui soit parfait. Dans nos sociétés occidentales, la séparation est sans doute le moins mauvais et plus simplement le seul possible. » Fin de citation. J'ajouterai que nos diplomates, en charge des affaires religieuses, veillent scrupuleusement à sa protection.
C'était Laurent Stefanini, conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères, qui s'exprimait lors du colloque consacré à 1905 sur les relations diplomatiques avec le Vatican.